L'emploi que lui avait procuré mon père aurait été beaucoup plus considérable qu'avec la conduite de Moresquin, il n'aurait pas suffi. Je fus persécuté pour parler à M. Saxancourt et l'engager à me faire une pension. Je ne pouvais prendre sur moi cette démarche, après ce que j'avais eu l'imprudence de dire en me mariant que si j'avais des besoins avec le parti que je voulais, je ne viendrais pas demander des secours. Je suis naturellement hôte, je souffrais infiniment dans ma situation. Mais si mes peines avaient été tout ordinaires, qu'elles eussent été secrètes et qu'elles n'eussent pas intéressé l'honneur, je les aurais dévorées plutôt que de me découvrir. Je remettais donc toujours. Moresquin affectait de me laisser manquer du nécessaire pour me forcer à parler. Il est vrai que souvent il n'affectait pas et que sa misère était trop réelle. Après avoir tâché de me parler raisonnablement à sa manière, Moresquin en vint aux menaces. Je lui tins tête et, dès qu'il fut parti, je m'en allai chez mon père emmenant mon fils. Ma mère ne put voir sans frémir que j'allais être à la charge de la maison. Elle sut arranger les choses de façon que mon père m'ordonna de retourner chez Moresquin. Il m'y conduisit lui-même. Il s'abaissa jusqu'à parler avec bonté à ce malheureux et par là il empira mon sort. Moresquin crut que mon père lui donnait raison, et ma mère l'en assura. Il ne me vit plus de soutien, plus d'appui, et il recommença de me persécuter, mais d'une manière différente. Il affecta de ne me parler que raison. Il me disait, non pas des infamies comme autrefois, pour m'exciter à la prostitution, mais des platitudes. Il me disait des mensonges si bêtes, si bas, qu'il me révoltait. Je lui résistais. Il n'osait plus me frapper, me tordre la chair. Je ne décrottais plus ses souliers. Je faisais faire cet ouvrage par une autre, même en sa présence, ce qui m'attirait quelques coups fourrés. Mais je le rendais. Quelle vie! Et pouvais-je la supporter? Moresquin l'aggravait encore en rentrant à minuit, à 1 heure, à 2 heures. Je brûlais à l'attendre un bois cher, car il fallait que monsieur trouvât du feu. Et l'argent manquait. C'était le soir qu'il s'émancipait, après avoir bien fermé les portes, à me donner quelques coups. Je l'effrayais par mes cris. J'appelais la garde par la fenêtre. Il fallait qu'il cessât. Souvent, il me menaçait de m'étouffer dans le lit. Je le bravais en lui disant « C'est ce que je demande ». Il s'en gardait bien. Mais il me faisait malicieusement geler de froid en me découvrant. Au moindre mot que disait son fils, il me poussait hors du lit pour courir à cet enfant, quoiqu'il n'eût besoin de rien. Il ne me permettait dans ces occasions ni de mettre une camisole, ni même de prendre des mules. Je me révoltais enfin contre sa tyrannie, et m'étant aperçu que son fils mettait de la malice dans ses cris nocturnes, je le fouettais. Moresquin, furieux, vint de l'obscurité pour me poignarder. J'ouvris les fenêtres, j'appelai à moi la sentinelle voisine et je le forçai encore au silence. Mais, je le répète, quelle vie! Comment exister ainsi avec un scélérat capable de tout? Toutes les fois que je m'élevais au-dessus de moi-même par la fureur, j'étais malade à mourir de la révolution que cela me causait. C'est ici une époque nouvelle. Moresquin, placé par mon père, glorieux de sa position dont il enflait les prérogatives en parlant aux ignorants, dénommant toujours l'homme en place qu'il occupait en nombre collectif, nous, Moresquin vantait alors le crédit et l'esprit de M. Saxancourt. Il démentait tout ce qu'il avait dit autrefois. On lui en faisait souvent l'observation devant moi, et il n'y répondait que par des bêtises dignes de lui, car il s'embarrassait aussi peu de la décence que de la vraisemblance dans ses discours assez familiers comme Vulda, Champ d'Épine et autres mauvais sujets dignes de la sortir. Je végétais ainsi depuis le mois de février jusqu'au mois de juillet, recevant les visites de mon père qui me consolait et qui m'engageait à souffrir puisque j'étais dans l'état que j'avais choisi. Moresquin, cependant, faisait le jaloux de Fromentel, mais sans trop insister, puisqu'il voyait ce jeune homme qui l'invitait et qu'il fit même avec lui une orgie nocturne dont je fus par occasion. Elle se termina par aller au café où Moresquin, dont le caractère est lunatique, se mit à vomir des horreurs contre moi et contre mon père. Sur l'objection qu'il se démentait, il se contredit sur le champ lui-même en disant que c'était la colère qui le faisait parler parce que M. Saxancourt ne l'admettait pas chez lui et ne faisait pas de Moresquin sa société ordinaire. Il se montra bien qu'il était véritablement aliéné en parlant cette nuit même contre son protecteur, l'homme en place, dont il censura la conduite de la manière la plus criminelle, et contre le premier secrétaire, son supérieur immédiat, dont il nous fit l'histoire secrète. Je souffrais beaucoup de tout cela, parce qu'il parlait dans un café devant plusieurs personnes qui l'écoutaient, et qu'il pouvait s'y trouver quelqu'un de la connaissance du secrétaire ou qu'il eût des relations avec lui. Je lui fis plusieurs observations là-dessus. Ce qui m'attira en sortant, les noms de poison, vermine, paix, prononcés de toute la force des poumons de ce misérable. J'étais indigné, je l'avoue. Je fus tenté plusieurs fois de le frapper la première, mais le plat fromentel alla jusqu'à me dire qu'il prendrait parti contre moi si je le faisais. Nous rentrâmes, et Moresquin voulut faire le méchant. Je le parus plus que lui d'abord, mais enfin, je finis par être rossé à rester sur le carreau. Je n'avais pas la force de remuer les bras. Le lendemain, toute meurtrie, j'allais chez mon père. Il était malade, et ma mère, après m'avoir traité fort mal, m'observa que, dans la situation où il était, je pouvais lui causer la mort. Ce motif puissant l'emporta. Je m'en retournai chez Moresquin, avec une lettre que mon père avait tracée dans son lit et qui ne fut pas sans effet durant quelques jours. Mais bientôt, le même train recommença. Mon père se rétablit contre toute apparence, mais sa convalescence fut longue. Elle dura jusqu'au mois de juillet. Je lui dissimulai pendant tout ce temps ce que j'avais à souffrir, car Moresquin, voyant qu'il ne lui arrivait rien pour ses mauvais traitements, pour ses discours injurieux, reprenait insensiblement toute son ancienne férocité. De mon côté, ma fermeté m'avait lassé, surtout après que je la vis désapprouvée par plusieurs personnes qui n'en connaissaient pas les motifs. Ainsi, je souffrais et je pleurais, guettant l'occasion néanmoins de quitter le monstre. Elle ne tarda pas à se présenter. Je vais exposer comment arriva enfin cette séparation après avoir détaillé quelques-unes des scènes qui la précédèrent. Quelques jours après la partie dont j'ai parlé chez les parents de Fromentel, voyant que ce jeune homme revenait quelquefois à la maison et que sa présence donnait lieu à Moresquin de dire des obscénités en montrant sa feinte jalousie, il me vint dans l'idée de lui écrire de ne plus venir à la maison et de rompre absolument avec Moresquin. Comme j'étais outré contre ce monstre et que j'écrivais à un homme qui ne valait guère mieux, dont je souhaitais me débarrasser, mes expressions n'étaient pas mesurées. Moresquin arriva plutôt qu'à l'ordinaire tandis que j'écrivais. Dès qu'il parut, je serrai ma lettre. Il se jeta sur moi et voulut voir ce que j'écrivais. Je refusai d'abord de le montrer, mais les grincements de dents et quelques coups dans les côtes me firent céder. Moresquin vit des choses qui n'étaient pas plus à son avantage qu'à celui de toute sa société. Il serra les cris, avec un rire aussi laid que lui et plus horrible que sa colère, promettant de montrer ce papier à tout le monde. Il s'amusa ensuite à me frapper, après m'avoir lié les mains, en me donnant des soufflets et des coups de pied dans les reins. Il ne me fut pas possible de m'échapper, mais ce fut un bonheur. Comme il m'avait laissé les mains liées, je ne pus me déshabiller et je restai par terre auprès du feu éteint. Je fis beaucoup d'efforts pour me délier et enfin, en quelques heures, j'y réussis en m'enlevant une partie de l'épiderme des poignets. Dès que je fus libre, je courus à la poche de Moresquin endormi, je pris la lettre et la brûlai. Il s'éveilla au milieu de la nuit et la cruelle brute ne me trouvant pas, il m'appela. Je lui dis où j'étais et comment. Je remis les liens et j'allai auprès de lui. Après deux soufflets, il les défit et m'ordonna de me coucher. J'obéis. Cette nuit, je n'eus aucune indignité à essuyer sur mon corps. Je fus seulement témoin forcé de celle que Moresca exerçait sur lui-même en me disant qu'il n'avait pas besoin de femme et que je n'étais pas digne de l'honneur de ses embrassements. Il me parla ensuite de la lettre et, sur une réponse ferme que je lui fis, il voulut me tordre la chair des bras. Je sautai du lit et montai sur la soupente où je m'enfermais. Ce fut de là que j'entendis toutes les horreurs qui peuvent sortir d'une bouche humaine corrompue. Mais ce fut bien pis le matin, lorsqu'ayant cherché la lettre pour la relire, il ne la trouva pas. Il se mit dans une fureur sans exemple, comme sans mesure. Il prit son épée pour pointer entre les joints de sa soupente. Mais il était jour, et mes cris horribles attirèrent le voisinage. Le monstre fut obligé de sortir, sans m'avoir tué comme il le voulait. Je m'enfuis chez mes parents après son départ, emmenant son fils avec moi. Qu'avais-je fait, cependant ? Rien, sinon d'avoir brûlé une lettre trop vraie qu'il voulait lire en plein café où tout le monde aurait reconnu combien ce que je disais était juste. Moresquin aurait été honni, on me l'assura 2 jours après. Sans doute, il n'aurait pas manqué de s'emporter et d'être souffleté comme il lui arrivait dans tous les endroits publics qu'il fréquentait. J'étais blessé en arrivant chez mon père qui fut très irrité. Je n'y restais cependant que 2 jours et demi parce que Moresquin fit des promesses de se mieux comporter à l'avenir pour conserver sa place, mais il est incroyable combien il fut peu de temps à se contraindre. 8 jours après, un dimanche, nous nous éveillâmes tard. Cela était fort naturel. On ne pouvait guère se dire véritablement au lit avant 2 ou 3 heures après minuit avec Moresquin. Et cette nuit-là, surtout, il avait enchéri par des brutalités obscènes. Moresquin, en voyant l'heure, s'écria « Quoi ? Mon pot-au-feu n'est pas mis ?» Ce grand, cet horrible malheur, lui bouleversa la tête. Il ne pouvait s'en taire. Je me levai, mais je n'allais pas assez vite et il me hâtait à coups de baguette dont l'un me fit jaillir le sang à côté de l'œil. Je fus bientôt prête et je courus à la boucherie. Mais faisant réflexion qu'il était obligé d'aller à son emploi, il me vint dans l'idée d'entendre la messe afin qu'il fût parti à mon retour. Je n'eus pas ce bonheur. Il m'attendait et sa fureur redoubla par le retard que j'avais apporté à mettre son pot-au-feu. Il leva une chaise sur moi pour m'assommer. Les portes étaient ouvertes. Je m'en fus chez mes parents. Mon père, qui était malade, me reçut mal et m'obligea de retourner à la maison avant que Moresca rentrât. Ma sœur m'accompagna par ordre de ma mère, car celle-ci n'ignorait pas qu'elle était peu respectée de Moresquin, qui souvent la traitait de gueuse, lui reprochant d'avoir trompé son mari pour faire son mariage. Car Moresquin ressemble au diable qui reproche en enfer aux malheureux les crimes qu'ils leur ont fait commettre. Ma mère envoyait donc ma sœur avec moi, n'osant venir elle-même, et ce fut devant cette jeune personne dont il devait respecter les oreilles et les mœurs, et qu'il n'avait pas droit de scandaliser, comme il prétendait l'avoir à mon égard, qu'il se permit 1000 détails obscènes de mes prétendus plaisirs avec Fromentel. Ce fut ce qui me mit en fureur. Je fis trembler le monstre par l'excès de mon indignation qui ressemblait à de la rage. Je traitais Fromentel comme lui-même et si mal que l'abominable Moresquin, craignant un éclat avec ce dernier s'il ne me désabusait pas, fut obligé de convenir que Fromentel ne s'était vanté de rien à mon égard et que c'était lui, Moresquin, qui avait tout conjecturé. Cependant, je n'en parus pas assuré et je prétendis l'aller trouver au café ou partout ailleurs. Moresquin voulut alors employer ses moyens ordinaires et me frapper. Je m'en aperçus à son grincement de dents. « Je ne te crains pas, monstre, lui dis-je. Qui ne craint pas la mort ne craint rien. Viens, bourreau, mais prends garde à bien l'asséner, car je ne te manquerai pas. Ce n'est pas bravade comme toi. « Allez-vous-en, ma sœur, je n'ai plus que faire de vous. Je vais employer mes forces contre ce monstre. Je ferai plus. J'emploierai contre lui l'infernale malice dont il m'a donné tant d'exemples. Partez, sous 3 jours, vous le verrez à la grève. » Je parlais comme je pensais. La réception que mon père malade m'avait faite me mettait au désespoir. Ma sœur n'eut garde de me quitter. Elle trouva même le moyen de faire avertir ma mère de venir. Madame Saxancourt accourut. Tout parut calme à son arrivée. Moresquin m'avait compromise. Il avait senti que le moyen que je voudrais employer était très possible dans l'excès de désespoir où j'étais réduite. Il me demanda même, dans un moment où ma sœur était à la croisée, ce que je ferais. « Je veux bien te le dire, parce que personne ne nous entend. Me tuer. » Et te laisser chargé du crime pour que tu sois puni d'une mort infâme telle que tu la mérites. Apprends, malheureux, qu'on ne réduit pas impunément une femme au désespoir par des horreurs comme celles dont tu te rends coupable journellement. Va, le sort que je te réserve sera tel que tous tes crimes passés dont tu t'es si souvent glorifié à moi recevront le salaire qu'ils méritent. Retire-toi, je n'ai plus rien à te dire, c'est à toi de trembler. Il voulut me prendre la main. Je le saisis à la gorge en lui disant « Voici l'heureux moment de t'étrangler. » Il appela ma sœur à son secours et ma mère arriva. Moresquin prit un air goguenard pour la recevoir et cet homme vil proposa d'aller à une comédie bourgeoise. Ma mère exigea que j'y allasse. Ce fut pour être témoin de tout le mépris que Moresquin le vil Moresquin lui montra. Il me préférait visiblement à elle dans les rafraîchissements pour la place. Il la fit ôter de la sienne en lui disant grossièrement « Elle ne voit pas qu'elle empêche ma femme de voir. » Ma mère sourit et m'obligea de passer devant elle. Dans une autre occasion, en parlant de Madame Saxancourt à quelqu'un de la loge voisine, il dit « Cette paix-là ». On le fit expliquer, croyant qu'il parlait de moi. « Ma femme est honnête femme, s'écria-t-il. C'est de sa bohémienne de mère que je vous parle. » Je ne sais si elle l'entendit. Elle n'en donna aucun signe. Mais voilà entre mille deux des propos de Moresquin. Telle a été la dernière scène d'éclat jusqu'à celle de ma sortie. Car si je les rapportais toutes, il faudrait répéter sans cesse les mêmes horreurs que j'ai décrites ingénument tant de fois. Rapporterai-je un trait qui, n'ayant aucun rapport à moi, n'en fera que mieux connaître l'âme atroce de Moresquin? Non, je m'en abstiendrai. Qu'il suffise seulement de dire ici qu'un enfant en fuite s'étant caché dans la cour de Moresquin, ce dernier voulut le ramener chez ses parents, que l'enfant, pour l'en détourner, dit leur demeure au faubourg Saint-Honoré, que là, Moresquin ayant appris, par un homme de la connaissance de l'enfant, que ses parents demeuraient rue de la Verrerie, celui-ci ramena le malheureux jeune homme à grands coups de canne, le remit à ses parents, roué de coups, en l'accusant de l'avoir surprise à voler, quoiqu'il n'en fût rien, et que le lendemain, il eut l'audace d'aller s'en informer. L'enfant était à l'extrémité. On mit à la porte Moresquin avec indignation en disant « S'il vous volait, vous n'étiez pas son bourreau !» On a depuis su la vérité. Les parents ont voulu agir en voyant leur enfant languissant, mais enfin ils ne l'ont pas fait parce que Moresquin avait effectivement trouvé le jeune homme dans sa cour en rentrant sur le minuit. J'arrive à la catastrophe de ma sortie. Nous étions au 22 juillet. Moresquin, principal locataire et non propriétaire, comme il l'avait persuadé à ma tante avant le mariage, avait reçu l'argent des sous-locataires et l'avait en partie dissipé. Il lui manquait 100 livres sur 200 qu'il avait à payer. Depuis le 15, il me disait tous les jours « Songe, Bess, qu'il me faut de l'argent et que si tu ne m'en trouves, je te rondinerai. » Je savais qu'il s'était fié sur mon père pour dissiper l'argent des termes, mais il ignorait, stupide comme il l'est, qu'un homme d'ordre comme M. Saxancourt ne peut jamais se déterminer à donner le fruit de ses épargnes à un misérable, un dissipateur, un mauvais sujet, qui aurait la bassesse, en gloutonnant ce qu'il aurait arraché à la bonté, au travail assidu, à l'économie, de plaisanter sur ses peines. Mon père me déclara donc qu'il ne donnerait rien à Moresquin. J'étais au désespoir, car, d'un autre côté, M. Saxancourt ne voulait pas que je quittasse mon mari, mon fils, mon ménage. Un soir, c'était le 21, je demandai à Moresquin quelles ressources il me supposait pour lui trouver de l'argent. « N'importe, me répondit-il, il m'en faut. B de P, guêpe, ruine maison, vermine, poison. » Et il levait la main. Tantôt je m'éloignais, tantôt je le bravais. Mais enfin, le vendredi 22 juillet, il rentra pour dîner, en apparence de bonne humeur. Je crus qu'il avait la somme et que son sous-protecteur, dont il chantait souvent les louanges et que plus souvent encore il déchirait, l'avait généreusement tiré d'embarras. Je me trompais. Moresquin dîna, joua ensuite avec son fils sans parler d'argent. Je me confirmais dans ma conjecture. Il s'assoupit après avoir polissonné, car il badinait avec l'enfant de manière à le rendre insupportable, à faire des infamies, à donner des coups en traître, à porter les doigts dans les yeux, etc. Moresquin dormit donc. Ce monstre, hors de son bureau, ne savait pas, comme la plupart de ses confrères, s'occuper d'écritures qui leur sont payées. Il n'a que sa routine et ne peut que la suivre. Souvent même, il trouve que c'est trop de peine que de faire le métier de commis et il manque son bureau pour jouer, se promener et crapuler. Moresquin s'endormit et son sommeil dura 2 heures. Je m'occupais pendant ce temps-là dans un petit cabinet à nettoyer des rubans. Vers la fin du sommeil de Moresquin, une pauvre femme que je chargeais en payant de lui nettoyer ses souliers à ma place me les apporta. Elle le croyait parti, et le bruit qu'elle fit en entrant fixa l'attention du monstre. Il se leva de mauvaise humeur, comme les enfants gâtés. Il gronda beaucoup de ce que je n'étais plus la dernière des esclaves. Je lui répondis raisonnablement que, travaillant en mode, je ne pouvais me gâter les mains. À cela, que croit-on que répliqua le plus bas, le plus lâche, le plus obscène des hommes ? Que je conservais mes mains pour qu'elles fussent plus douces pour de fromentelle. Je l'avouerai, cette infamie, dite devant une étrangère, une femme de la populace, me mit hors de moi. J'en avais souffert de plus indigne, mais j'étais seul à les entendre. Je devins furieuse. Cependant, je ne disais rien. Je sortis un instant du cabinet où je travaillais pour prendre quelque chose. Moresquin y poursuivit son fils, avec lequel il recommençait à jouer. Je vis le moment où ils allaient perdre tous les rubans qu'on m'avait confiés. Je m'écriai : « Prenez donc garde, les rubans, les rubans !» Moresquin, quoiqu'il n'eût pas encore de quoi les payer, affecta d'être au-dessus de cette misère. Il continua de jouer. Je le priai de sortir du cabinet et j'employai l'expression « au nom de Dieu ». Moresquin sourit alors et un coup de poing entre les deux yeux fut sa réponse. Je tombai aveuglé. Je ne pus me venger, mais je criai avec tant de force que tout le voisinage accourut, surtout une femme dont la veille il avait accusé la fille, mais bien faussement, d'avoir raccroché sur le boulevard. On l'accabla d'injures. Il sortit furieux en me disant « Drôlesse, tu en auras ce soir quand il n'y aura personne. J'ai mis ta montre en gage, mais demain j'y mettrai jusqu'à ton dernier cotillon pour faire la somme et je te ferai à la porte toute nue. » Après son départ, indigné, sûr qu'il était homme à tenir sa parole quand il s'agissait d'une mauvaise action, je réfléchis. L'attendrai-je ? Mettrai-je ce soir fin à tous mes maux ? Ou fuirais-je à jamais un monstre sans principe, un meurtrier, le fléau de ses propres parents comme le mien ? Telle fut la question que je me fis. Après l'avoir agité longtemps dans ma tête, je me déterminai à fuir. Mais où aller? Mon père était mon seul appui, et il ne paraissait pas. Je ne savais comment le faire avertir. Néanmoins, je préparai mes paquets. Je remplis une grande malle de ce qui m'appartenait, et j'emportai ce que je pus. Je laissai ce qui était à la blanchisseuse, ma montre, mes bijoux qui étaient en gage. Je pris qu'on fasse cette observation, qu'il s'en fallait de beaucoup que j'emportasse tout ce qui était à moi. Tandis que j'étais dans les transes, mon père arriva. Je lui parlai beaucoup plus décidément que je ne l'avais encore osé le faire. Je lui dis qu'ayant des témoins des derniers traitements de Moresquin, je voulais profiter de cette occasion bien prouvée et plus scandaleuse que toutes les autres pour quitter à jamais un homme flétri par la justice, car il y avait eu des peines prononcées par contumace dans ces différents homicides. 7 heures venaient de sonner et le temps pressait. Mon père me répondit « Moresquin est un homme vil, un lâche scélérat, qui mériterait d'expirer sous le bâton si les lois paternelles étaient encore en vigueur. Cependant, réfléchissez avant cette démarche extrême qui doit être la dernière de ce genre. Je ne vous la conseille ni ne vous l'interdis à cause des suites, car elles peuvent être très graves des deux façons. Si vous restez, il peut arriver un malheur que vous auriez à me reprocher en raison de mon opposition. Si vous quittez Moresquin et sa maison, il peut arriver aussi des choses très désagréables. Je vous laisse la liberté du choix, avec promesse, dans les deux cas, de me tenir également prête à vous secourir. » Je persistais dans la résolution de quitter mon bourreau. Je sortis de la maison à 8 heures du soir. Il est bien des choses qui sont échappées à ma mémoire dans ce récit désastreux de mon mariage avec Moresquin et les suites de ma désobéissance que je ne prétends pas excuser. Je n'ai rapporté tout ce qui précède que pour exposer aux yeux des jeunes personnes les suites horribles qu'eut ma faute et leur montrer combien il est dangereux de ne pas s'informer exactement des mœurs de l'homme qu'on épouse. Hélas, c'est un maître que l'on se donne, et non seulement un maître, mais une moitié de soi-même. Un être qui a des droits sur notre corps, sur notre âme, sur notre pudeur, sur notre chasteté même, sur le bonheur ou le malheur de tous nos instants. Me voilà échappé des griffes du monstre. Jeune fille, vous me croyez en liberté? Ah! Vous allez voir à quel danger je suis encore exposé. Les horreurs qui vont suivre égaleront, si elles ne les surpassent, celles que j'ai décrites.